Les développer. Podcast chorégraphique de la manufacture CDCN. Des chroniques qui passent la danse au kaléidoscope.
Un jour, au bal de la Saint-Jean, je me suis pris un vent, je te jure. Le gilou m'a refusé un roc. Sur le moment, j'ai mal vécu le truc. Mais avec du recul, cette déconvenue a plutôt à voir avec une conquête. Quand y pense, toutes mes aïeules, et ce, jusqu'à ma grand-mère au moins, eh bien, toutes ces meufs, c'est clair, pas une ne se serait permise d'inviter un mec à danser. Trop de pression. Déjà, il ne leur serait même pas venu à l'idée d'aller au bal sans être accompagné. Alors, se permettre d'inviter à danser l'un ou l'autre Jeannot, n'y pense même pas. Selon les us et coutumes, ce sont les hommes qui invitent les femmes, et pas l'inverse. Mais en plus, fut un temps où une femme ne pouvait pas envisager de danser seule. En gros, pour résumer, avant que le swing ne débarque chez nous, il était convenu qu'en tant que nana qui se respecte, 1. Tu vas au bal si et seulement si tu es accompagnée. 2. Tu as la permission de danser si et seulement si tu es invitée. 3. Une fois sur la piste, te voilà à la guise du mec. C'est lui qui mène la danse et quelquefois sans te ménager. À l'intérieur, pour elle, c'était moins rose. Oh, cousine, tu danses, je t'explose. Aujourd'hui, les deux premiers points semblent être obsolètes. Et pour le troisième, il y a moyen que cela change. J'ai entendu parler de bracelets destinés à déjouer cette habitude. En fait, avec cet accessoire, tu peux soit être invité à guider, soit être invité à suivre. Peu importe ton genre, futé non ? Mais le top, c'est peut-être le Liquid Lead Dancing. Un tour de passe-passe imaginé par Trevor Kopp et Jeff Fox, qui change la donne entre les partenaires de danse de couple. Ainsi, ce n'est plus seulement l'homme qui mène et ce n'est plus seulement la femme qui le suit. Ces deux accros de danse de salon plaident pour une danse où la conduite passe d'un partenaire à l'autre sans distinction de genre ni même de morphologie. En trouvant une alternative à ces manies désuètes de la danse de couple, ils défendent une pratique inclusive et non sexiste. Peut-être bien que l'idée de rôle sexo-spécifique dans la danse de couple est en passe d'être has-been. En tout cas, celles qui ont osé s'extirper de cette subordination de la femme dans les baloches n'ont pas attendu le Charleston pour guincher sans le moindre partenaire. Faire tapisserie, très peu pour elles. Un siècle avant les années folles, il y a eu mutinerie. C'est l'époque où le bal n'est plus seulement cénacle de l'élite. Il est aussi rendez-vous populaire. L'insurrection est sidérante. Cela se passe dans les années 1830, dans un de ces bals publics des faubourgs de Paname. Pas évident de vérifier exactement comment, mais on s'accorde pour raconter que la gente féminine a volé la vedette en osant, elle aussi, improviser en plein quadrille. Comme ces messieurs, ou plutôt à la place de ces messieurs, les luronnes vont accomplir des prouesses techniques et se lancer dans le dégingandage sans vergogne. J'avoue, j'aime bien imaginer ces femmes du peuple qui, n'y tenant plus et sans aucune concertation préalable, sont venues emboîter le pas à ces messieurs. Qui entrent, les voilà qui bravent l'autorité en s'immisçant dans ce temps d'improvisation d'ordinaire réservé aux hommes uniquement. L'insurrection viendrait des blanchisseuses. Comme ces messieurs, elles vont donner libre cours aux contorsions et gesticulations acrobatiques. Et je me trémousse, et je fais dans la cabriole, et j'envoie la bottine par-dessus l'épaule. Je m'autorise à faire dans le cancan. Oui, monsieur, je chahute moi aussi. Et alors ? Quelques minutes prises d'assaut par quelques-unes qui vont inverser la tendance. Le rapt de la figure du cavalier seul par les femmes marque un des jalons de leur émancipation. Elles s'octroient le droit de danser seules, le droit de danser comme bon leur semble en rivalisant de spontanéité et en toute désinvolture. Alors certes, c'est sûr qu'une fois la jambe en l'air, il est plus aisé d'apercevoir le dessous des jupons. Plus facile d'entrevoir ce fameux pantalon ouvert qui fait l'objet de bien des convoitises par ces messieurs qui ont vite fait de leur coller l'étiquette de fille facile. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est vers 1830 aussi que le ballet classique exacte la figure de la ballerine au détriment des danseurs, qui, sur scène, vont ensuite faire plus office d'auxiliaire à leur élévation qu'autre chose. Pourtant, à cette époque, les ballerines ont aussi la réputation d'une souplesse morale au moins égale à leur souplesse physique. Petite vertu et danseuse forment un combo dont la date de péremption n'est pas très claire pour tous. Mais ce n'est pas exactement là que le bât blesse. Ce n'est pas parce qu'elles enchaînent des pas débridés susceptibles d'attiser le fantasme, mais plutôt parce qu'elles dansent de leur propre chef sans y être invitées que ces dames-là, en ces temps, peuvent être condamnées par la loi. En fait, il en fallait du culot pour entrer ainsi sur la piste de danse. Car dis-toi qu'à l'époque, les femmes de quelque classe sociale que ce soit sont considérées comme mineures tout le long de leur vie et on ne leur accorde pas grand-chose. Elles ont beaucoup de devoirs mais si peu de droits. Je dis ça, je dis rien. En chipant la figure du cavalier seul, certaines vont bientôt pouvoir mettre du beurre dans leurs épinards. Cette sorte de bœuf chorégraphique au féminin va s'avérer lucratif. Le phénomène attise curiosité et ces audacieuses vont transformer la stupeur en attraction. Avant d'adopter de formes spectaculaires à part entière, cette dérive dansée sera l'occasion d'échapper à la malédiction sociale. Ces dames vont finalement toucher un salaire pour exécuter leur impro peu farouche. Mais attention, ce chahut-cancan n'est pas encore une attraction touristique au parfum licencieux. C'est plutôt une manière joyeuse de faire un pied de nez à toute forme d'autorité. Ce déploiement de fantaisie irrévérencieuse est aussi une opportunité pour celles qui s'y adonnent d'affirmer des personnalités. Chacune cultive sa singularité à travers son propre costume, son style de danse et un pseudo. Ainsi, elle bouscule les codes, brise les tabous, brave la morale. Toutes les figures du cancan rivalisent de revendications. Le chahut-cancan, avant de devenir attraction touristique affriolante, est avant tout transgressif. Quand bien même le fringe-cancan cristallise aujourd'hui l'image d'une société frivole, admettons que ce chahut, en bas noir et froufrou, dessine une première ébauche d'émancipation de la femme et de libération sexuelle. Le caractère revendicatif des premiers cancans me renvoie à d'autres formes dansées qui ont émergé de manière spontanée. Et entre toutes, je pense plus particulièrement au voguing. Elles ont en commun cette nécessité de s'affranchir des normes. Mais nous en reparlerons sans doute une prochaine fois.